BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Voilà donc le BFM Patrimoine qui ouvre ses portes comme chaque matin pour 2 heures d'expertise liée au monde de vos placements. C'est votre rendez-vous avec votre argent jour après jour de 10h à midi. Déjà un coup d'œil pour entamer sur le reste de l'actualité avec les vacances d'été qui vont pouvoir vraiment commencer pour près de 710 000 candidats au baccalauréat. Nouvelle formule, ils ont découvert leurs résultats depuis 8 ou 10 heures pour certains ce matin en ligne ou sur les traditionnels panneaux d'affichage dans la cour de leur établissement. Pour les moins chanceux, les épreuves de rattrapage commenceront dès demain et se tiendront jusqu'à vendredi. Vladimir Poutine a ordonné à ses forces de poursuivre leur offensive dans l'est de l'Ukraine. De son côté, Kiev évalue le coût de la reconstruction de l'Ukraine à 750 milliards de dollars. Et puis aujourd'hui, les 30 pays membres de l'OTAN lancent le processus de ratification des adhésions de la Suède et de la Finlande, une décision historique pour les deux pays nordiques. Et puis en France, la production industrielle s'est stabilisée en mai grâce notamment au rebond de l'industrie manufacturière après un recul de 0,3% en avril. Des chiffres publiés ce matin par l'INSEE qui précisent que la production manufacturière a été tirée par la fabrication de biens d'équipement et de celle des autres produits industriels.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.
Et tout de suite, on retrouve Antoine Larrigaudry depuis la tour de Ronex à La Défense. Bonjour Antoine. Que se dit-on sur les tables avec un CAC 40 et une intro?
Oui, avec un CAC 40 qui est en faible rebond, hein, plus 0,09%. 5960 pour l'indice parisien. Il faut dire qu'on sort de 2 séances de hausse d'affilée pour le CAC 40. Bon, le potentiel est vraiment capé en ce moment par les incertitudes de marché, la volatilité sur les taux, sur les prix de l'énergie. Donc, il ne fallait pas en attendre des miracles. On sent que franchir le cap des 6000 points est peut-être encore un objectif un petit peu ambitieux pour le CAC 40 à court terme. Bon, enfin, globalement, il restait quelques points à grappiller. À noter l'Eurostock 50 en hausse un peu plus conséquente, hein, plus 0,46% et plus 0,39% pour le DAX à Francfort. Et une intro, effectivement, une intro extrêmement suivie, celle de 10 heures, bien entendu, avec tout le staff du groupe qui était là, avec Bruno Le Maire, bien entendu, avec tous les hauts dirigeants de la Bourse de Paris, bien sûr, parce que c'était un événement aussi bien pour 10 heures en soi-même que pour la Bourse de Paris, avec une introduction extrêmement attrayante, en plus dans le domaine de la tech, que Euronext essaie vraiment de pousser vers le haut, hein, à travers Euronext Tech Leaders, son programme dédié aux valeurs technologiques. Bon, il faut bien reconnaître que les premières dizaines de minutes de cotation sont un petit peu laborieuses, étant donné que le titre perd 14%. Bon, des ajustements techniques, hein, toujours lors de ces très grosses opérations, avec un groupe qui a été auparavant très très entouré par tout le phénomène du private equity, du capital risque, qui a fait enfler les valorisations. Donc, pas impossible qu'il y ait une prime spéculative autour de 10 heures qui ait besoin d'être ôté du marché avec cette confrontation devant l'offre et la demande et la profondeur du marché. Enfin, autant dire que ça commence par une baisse assez franche, assez nette. Du côté des valeurs qui marchent mieux, sur le CAC 40, à noter Alstom qui gagne 2% à 22,66 €. On a également des valeurs de croissance qui se distinguent bien avec Hermès qui gagne 1,7% à 1,084 €, valeur de croissance soutenue par toujours des taux très modérés. On voit que la correction se poursuit, notamment sur la dette française 10 ans, qui est bien passée sous les 2% maintenant, mais qui vraiment plafonne du côté d'1,9. On est à 1,91. Pareil pour la dette allemande, qui recule à 1,32% de rendement. Donc tout ça, c'est bon. Plutôt pour les valeurs de croissance, on a la tech qui se porte bien aussi avec Capgemini, qui gagne 1,27% à 159,30 €. Et puis les valeurs à la baisse, du fait de ces corrections sur les taux, on a quand même le secteur bancaire, BNP Paribas, se distinguer par une forte hausse à l'ouverture, mais là tout l'ensemble du secteur bancaire est en baisse, moins 1% pour le Crédit Agricole à 8,66 €, Société Générale moins 1 à 20,39 €. Plus forte baisse du CAC 40, c'est Thalès avec des prises de profit, le titre perd 2,8% à 114,90 €. À noter la forte baisse de JC Decaux, moins 5,10 € à 15,46 €. En revanche, forte hausse pour Rémy Cointreau qui gagne 5,3% à 175,50 €. Le CAC 40 plus 0,04, hein, vous voyez, on est vraiment sur le fil maintenant. 5,957 points. Du côté de l'euro-dollar, on est à présent sous 1,04 $. On est à 1,0371.
Antoine Larigauderie. Merci Antoine pour ce coup d'œil sur les marchés une heure après l'ouverture, comme d'habitude à l'entame de BFM Patrimoine. Dans un instant, un coup d'œil sur les questions de conjoncture et de macroéconomie.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Et l'on retrouve Irina Topasseri depuis AXA-IM. Bonjour Irina.
Bonjour Cédric.
Merci de nous accorder ces quelques minutes, comme chaque mardi, avec au programme pas mal d'indices PMI, un peu partout d'ailleurs, ce qui va être intéressant à regarder. Et puis, en point d'orgue, entre guillemets, on aura en fin de semaine l'emploi américain. Alors, commençons par les PMI. Comment voyez-vous les choses ?
Bon, donc les PMI, dont la semaine dernière, nous avons eu le secteur manufacturier qui, bon, comme attendu, est en repli, si vous voulez. Donc, on commence à voir des indicateurs un peu tendus, ce qui était attendu un petit peu. Donc, vous voyez, donc par exemple, sur le secteur manufacturier, on est aujourd'hui, selon cette enquête, au plus bas depuis 17 mois en Espagne, ou 18 mois en France, par exemple, ou 23-24 mois en Italie ou en Allemagne. Donc voilà, donc on prend un petit peu de recul là-dessus. Et ce matin, effectivement, nous venons tout juste d'ailleurs d'avoir les PMI dans le secteur des services. Et là encore, on était toujours et encore très attentifs à comment ça va se déployer sur les services, parce que quand même, nous sommes des économies de services avant tout, hein, même si le secteur manufacturier nous donne quand même le là. Et là, effectivement, on voit que un peu comme attendu, j'ai envie de dire, le niveau de ces enquêtes reste quand même fort, mais ça descend nettement de là où on était, par exemple, les mois derniers. Donc on enregistre des replis de 2, 4, 5 points selon les pays. La France est assez rigolo parce qu'elle était attendue, je ne sais pas pourquoi, mais l'enquête auprès de consensus de marché était attendue en flat, hein, donc inchangée. Bah, évidemment, donc, la France aussi a connu sa petite... son petit reflux, mais il est moindre que de 0,5 points par rapport au point d'avant. Enfin bon, on constate effectivement tout ce qui nous intéresse à décrypter ici, c'est que bon, l'activité reste en expansion, mais une expansion moins forte, une progression moins forte qu'avant. Mais surtout, on va regarder les nouvelles commandes, par exemple, dans tout ce qui est composantes futures. Et c'est là où on voit qu'il y a la vraie rupture. Hein. Les composantes futures sont au plus bas depuis 2 ans. Hein. Donc, c'est là où ça se passe. Et autre chose qu'on est en train de regarder de très près, c'est qu'est-ce qui se passe sur les prix. Et là, on voit que les pressions sur les prix restent très fortes. Les sociétés enquêtées, enfin, qui sont dans cette enquête, font état des prix des inputs, hein, si vous voulez, donc leurs coûts, qui augmentent à l'allure la plus rapide depuis l'existence de cette enquête. Alors, toujours attentif à ces enquêtes, hein, parce que c'est des enquêtes, c'est des indices de diffusion, hein, je le dis assez souvent sur les PMI, donc c'est d'un mois sur l'autre, donc peut-être que le niveau n'est pas toujours intéressant à retenir, mais quand même, ils disent que d'un mois sur l'autre, ils voient quand même la pression sur les prix augmenter. 58% des sociétés enquêtées en France, par exemple, disent que le poids de leurs coûts est en hausse ce mois-ci, au mois de juin. La plupart, donc bien sûr, mentionnent l'énergie, mais on entend déjà quelques-uns qui mentionnent, par exemple, les salaires et certains qui mentionnent les taux d'intérêt, hein, le fait que les taux d'intérêt aient monté. Cependant, peut-être le point un peu intéressant à noter, c'est que les entreprises continuent toujours à embaucher. Hein. Donc, il y a quand même cette composante-là qui reste toujours forte. Donc, bon, somme toute, des secteurs des services en expansion, finalement, depuis 15 mois, même si cette expansion est la plus faible depuis le début de l'année, ça reste quand même assez soutenu.
Voilà donc pour ces questions de PMI. Et puis donc, point d'orgue, alors il va y avoir la traditionnelle montée avec les différentes enquêtes préliminaires, etc. Mais on aura en fin de semaine les non-farm payroll, comprenez l'emploi américain. Et ça va inévitablement être une des statistiques phares du moment, puisqu'on sait que la Fed veut casser l'inflation, notamment en faisant remonter, entre guillemets, le taux de chômage. Qu'est-ce que vous attendez de ce chiffre ?
Oui, donc vous avez raison, et c'est ça toute la difficulté de mener cette politique monétaire, justement, tout en finesse, c'est que pour calmer les pressions sur les prix, il faut bien agir sur la demande et donc sur le marché de l'emploi. Parce qu'il faut dire que la consommation américaine, même si elle a été extrêmement robuste et même voire excessive depuis des trimestres, il y a des signes de faiblesse qui apparaissent. Ça surgit ici et là. Nous avons vu par exemple au mois de mai la consommation des ménages en baisse, moins 0,4%. C'est une première baisse depuis décembre 2021. Donc on voit bien que l'effet de l'inflation sur le pouvoir d'achat des ménages commence à s'exprimer. La baisse des revenus réels, elle est réelle, elle est en place depuis le début de l'année. Mais elle a été continuellement compensée par une baisse du taux d'épargne. Et en avril, c'est peut-être un premier mois, enfin en mois de mai par exemple, enfin en avril, le taux d'épargne était en dessous le niveau pré-pandémique, donc on avait épuisé, si vous voulez, tout ce qu'on a accumulé. Au mois de mai, on a vu un premier mois, je ne sais pas si c'est un premier, mais en tout cas, le mois de mai montre que le taux d'épargne monte très légèrement, c'est la première fois cette année. Enfin, on ne peut pas dire qu'un mois fait le tout, on verra comment ça se positionne, mais c'est vrai que la consommation, pour s'ajuster, il faut que le marché d'emploi passe par un moment de solitude, si vous voulez. Il faut que ça soit ajustable. Donc, on va voir ça sur les payrolls. Le ISM manufacturier, donc les PMI américains, montrait déjà donc une baisse de 3 points sur le mois de juin, surtout venant de la composante commande, mais surtout la composante de l'emploi, qui était encore plus en dessous le niveau de 50, qui est le niveau de contraction. Les ISM services cette semaine aussi, là encore, on va regarder, comme on a regardé pour les enquêtes européennes, on va voir toujours qu'est-ce que ça donne la composante emploi, et tout ça, ça va venir en maximum sur le fameux rapport, qui, dans le consensus, me semble toujours encore optimiste, quand même, 250 000 en création d'emplois. D'accord. Sur ce mois. Je pense que la croissance économique indique quelque chose de plus faible, mais on verra un petit peu comment se tient le marché de l'emploi américain.
Merci beaucoup, Irina. Irina Topasseri, donc, merci. Depuis AXA IM ce matin, pour nous accompagner sur ce panorama conjoncturel et macroéconomique. Le marché parisien qui est en petite baisse de 0,28%, 5 937 points pour l'indice CAC 40.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
À 10h30, comme chaque matin, vous avez rendez-vous avec l'analyse technique et c'est Jean-Louis Cussac qui nous accompagne au cœur de ce mois de juillet. Merci Jean-Louis d'être présent depuis Perceval Finance Conseil. Comment percevez-vous l'évolution de cette tendance d'été ?
D'une manière très morose, puisque le marché, le CAC 40, l'indice, n'a pas cessé de baisser depuis la préouverture, en fait. Vous rendez compte qu'on a coté pratiquement 6 000, 5 995, quelque chose comme ça, ou 97. On était dans cette zone à la vente, d'ailleurs, comme hier. Et depuis, on a perdu 1,60, plus d'un 60, parce que ça n'arrête pas, ça baisse doucement, sûrement. Mais alors, c'est le volume qui est incroyable, 350 millions, c'est-à-dire un volume mais extrêmement faible. Donc, on peut quoi que cela confirme l'absence de conviction et pas vraiment des grosses pressions à la vente, mais des acheteurs qui se reculent, des acheteurs qui sont pas là, des vendeurs qui montrent un petit peu le bout du nez, mais bon, pas non plus quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on a eu d'ailleurs des situations comme cela la semaine passée, et puis le marché derrière d'ailleurs a rebondi fortement, parfois plus de 100 points en quelques heures. Donc, on a un copier-coller de ce qu'on observe depuis maintenant quelques semaines, c'est-à-dire une vague d'espoir, de désespoir, entre guillemets, en tout cas de forts doutes. Et là, vous avez beaucoup d'inquiétudes pour la zone euro, en définitive, parce que l'énergie risque de manquer cet hiver. Donc là, il y a une forte inquiétude à ce niveau-là, mais elle risque de manquer ou en tout cas de le payer très cher pour les entreprises, ce qui fait que voilà, ça baisse. Et l'euro-dollar, d'ailleurs, baisse aussi très sensiblement. Il a décroché. Vous voyez, donc les rebonds dont on parlait la semaine dernière, qui étaient une occasion de vendre, ce que je vous disais, tant qu'on est sous 1,08, ça s'est confirmé. On est à 1,03, 40, 43 là, et le marché, pareil, l'euro dollar ne fait que baisser depuis une heure. Il y a un flux vendeur qui est pas très important non plus, mais ça baisse partout. Donc l'idée, de toute façon, c'était toujours la même. Alors là, c'est un petit peu tard pour vendre maintenant, mais on a toujours ce solde vendeur puisque la tendance est baissière. Et en intraday, ben, je t'ai vendeur comme hier vers 5997 futurs juillet. Aujourd'hui, vous avez les dividendes qui ont été détachés là sur Veolia Eurofin. Bon, ça impacte très peu le CAC 40. Hier, le gros impact du CAC, c'était Total qui gagnait 4,5%, puisque Total est pondéré à 9,7%. Vous voyez, c'est énorme. Alors aujourd'hui, elle recule. Bon, ça arrange pas les choses, mais c'est pas non plus très très méchant. Non, c'est vraiment un faisceau de signaux inquiétants sur l'approvisionnement d'énergie, l'inflation, toujours la même chose, et des acteurs qui n'ont aucune raison, des investisseurs si on veut, mais qui n'ont aucune raison de payer, si vous voulez, un marché pour lequel on manque de visibilité. Et avec des nouvelles qui sont toujours extrêmement mauvaises, comme je le dis depuis des semaines, il y a beaucoup plus de raisons de voir le marché baisser que de le voir monter, mais il résiste encore. Là, pas ce matin, mais il suffit, vous savez, qu'on s'arrête une heure, et d'ailleurs, on va se reparler dans une heure, Cédric, peut-être qu'il y aura du changement, et que le marché aura rebondi d'1%, on ne sait pas. Si vous voulez, on a ce côté, en tant que trader intraday, extrêmement aléatoire. Mais en même temps, à chaque fois qu'on vend, on gagne. Donc, on continue travailler, si vous voulez, avec beaucoup de techniques, pas trop d'idées préconçues, et toujours à la vente.
Jean-Louis Cussac, qui nous accompagne chaque matin, et effectivement, qu'on retrouve dans une heure pour suivre cette séance du jour, qui, pour le moment, a basculé en territoire négatif. On accélère même, on menace les 5009. On est en baisse de 0,82%. Ça baisse aussi ailleurs en Europe, moins 0,21% pour l'Eurostock 50. Et l'eurodoll, en ce moment, pointe à 1,0338.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour. Le futur chèque carburant se précise. Quoi de neuf ?
Alors, quoi de neuf ? On oublie l'idée que ça va être exclusivement pour les gens qui roulent beaucoup. Donc, ça va être quelque chose... C'est bon, Bruno Le Maire l'a confirmé. Donc, ça va être réservé aux actifs qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler et qui ont un petit salaire. Voilà, ça va être sous condition de ressources. Alors après, la définition du mot actif, c'est pas très clair. On sait qu'il y a les salariés, c'est sûr. Il y a les alternants... J'ai du mal à imaginer qu'on n'y mette pas les indépendants. Vous voyez, l'infirmier qui n'a pas un gros salaire et qui roule de patient en patient toute la journée, qui ne soit pas éligible, ça semble difficile. Il n'a pas été évoqué la question des chômeurs. On dit bien pour aller travailler. On peut considérer qu'un chômeur qui se déplace en voiture pour chercher du boulot, ce serait pour aller travailler. Bon, ça va encore être... Mais en fait, vous allez voir qu'il va rester beaucoup d'éléments non définis que volontairement, visiblement, le gouvernement veut laisser à la discussion parlementaire. On donne du grain à moudre aux parlementaires parce qu'on sent que ça va être compliqué, cette histoire. Donc voilà. Pour l'instant, voilà la grande nouveauté, c'est que c'est plus lié à un kilométrage défini.
Comment va-t-il fonctionner, ce chèque carburant ?
Le niveau de ressources sera tranché par le Parlement, laisse entendre Bruno Le Maire. Je rappelle que ça pourrait passer par décret, mais là aussi, on veut donner du grain à moudre au Parlement. Alors, il évoque une fourchette de plafond de ressources qui irait de 1500 à 1800 euros. C'est vaste, quand même. Ça fera pas le même nombre de bénéficiaires si on est à 1500 ou si on est à 1800. Et ça va pas s'appeler chaque carburant. Ça s'appelle indemnité carburant travailleur. Voilà, le coût des chômeurs, ça va être un sujet important. Donc, faudra aller faire la demande soi-même. Donc, se dire, je dois probablement être éligible. Je vais sur le site dédié, sur le site des impôts, et je remplis probablement un formulaire, j'imagine. Ensuite, l'aide doit être versée en une seule fois, à l'automne prochain, nous dit-on. Pour ce qui est du montant, il y aura donc pas de limite de distance parcourue, mais il est question d'avoir un bonus au-delà d'un certain kilométrage annuel. Le chiffre évoqué pour l'instant, c'est 12 000 km par an. Vous auriez un bonus, donc, pour cette indemnité carburant travailleur.
Pourquoi la notion de gros rouleur qu'on avait longtemps évoquée a-t-elle été abandonnée ?
C'était une machine à baffe, Cédric. Voilà, parce qu'automatiquement, on va vous donner l'exemple de celui qui ne fait pas 12 000, 15 000 km par an, mais qui va, bon, par jour, il fait quoi ? Il fait 30 km, il a un tout petit salaire. Et bien, lui, 30 km, ça suffit, compte tenu des prix du carburant, pour amputer son pouvoir d'achat. Pourquoi ne serait-il pas éligible ? Donc, on a quand même voulu créer un peu d'universalité chez les gens qui roulent et qui ont des petits salaires, visiblement. Alors, ça va être sportif. Et là, accrochez-vous quand même, parce que maintenant, il faut rentrer dans la mécanique. Donc, il est prévu de couper avec de recouper avec les fichiers des assureurs pour savoir si les gens ont bien une voiture ou pas. C'est pas simplement la carte grise. Et il est également question d'aller recouper avec les contrôles techniques pour évaluer le nombre de kilomètres qui sont parcourus. Après, ne me demandez pas comment est-ce qu'on va déterminer le kilomètre qui est réalisé pour aller bosser et le kilomètre qui est réalisé pour aller faire autre chose.
Pour aller faire des courses.
Je ne sais pas. Il était question à une époque aussi de valider le fait que la personne éligible avait ou pas un tramway ou un bus en bas de chez elle. Non, on n'en parle plus du tout. Donc, on a voulu un peu créer de la simplicité dans la complexité. Donc, ce chèque carburant, enfin plutôt cette indemnité carburant travailleur sera inscrite dans la loi qui sera le 18 juillet devant l'Assemblée nationale. Et là, on voit bien que c'est l'os à ronger de la discussion. Et tout est fait pour donner effectivement de quoi s'écharper entre l'indemnité carburant, les 18 centimes de ristourne par litre, est-ce qu'on joue sur les taxes, est-ce qu'on fait du blocage de prix, enfin... Chacun a sa petite envie, chacun a son souhait. Et d'ailleurs, il va y avoir un autre élément de discussion qui va être intéressant, c'est que, vous savez, Bruno Le Maire avait dit que les 18 centimes de ristourne pour tous par litre de carburant, c'était jusqu'à la fin décembre. Mais on se dit que la discussion parlementaire pourrait déterminer ou décider qu'à partir du moment où est opérationnelle l'indemnité carburant travailleur, ouais. Eh bien, on arrête les 18 centimes de litre. Après, toute la question sera de savoir si on arrête avant le fin décembre, si on arrête avec un effet sifflet pour éviter de faire jour-nuit sur ce genre. Donc, là où c'est un peu perturbant, c'est que ça fait quoi ? Des jours qu'on dit qu'il faut des mesures ciblées. Et quand arrive la perspective d'une mesure ciblée, on se dit que ça va être hyper compliqué. Voilà. Et qu'on va trouver des quantités de cas particuliers qui ne seront pas éligibles et qui pourtant présentent des caractéristiques qui voudraient que malgré tout, le dispositif leur soit attribué. Et puis on voit que dans le même temps, vous savez, le gouvernement a lancé un guichet pour les entreprises grosses consommatrices de gaz et d'électricité. Donc on est quand même vraiment en train d'installer une sorte de quantitative easing du peuple. Et on se rend bien compte que l'ensemble de ces dispositifs, ciblés ou non ciblés, le jour où il va falloir les arrêter, ça va être très, très, très compliqué. En tout cas, voilà les éléments dont on dispose par rapport à ce qui se prépare pour l'automne.
La polémique de Nicolas Dose ce matin. Merci Nicolas, à demain. Le marché parisien toujours malmené pour le moment, puisque on perd 1% et on est passé sous les 5900 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Bonjour Benoît Lombard.
Bonjour Cédric.
Le président du groupe La Place. Et ce matin, on s'offre grâce à vous un focus sur ce qu'on appelle les droits de partage. Kézako, les droits de partage.
Le droit de partage, c'est lorsqu'il y a une situation indivise. Alors c'est quoi l'indivision ? Eh bien c'est simplement lorsque plusieurs personnes détiennent une chose ou un ensemble de choses communément.
Donc, en clair, par exemple, un héritage, lors d'un héritage.
Alors, il y a deux raisons qui font que, puisqu'on va parler de droit de partage, c'est le moment où le partage va cesser. Et il peut cesser dans deux hypothèses. La première, c'est lorsqu'on a des époux qui sont mariés, eh bien, on a une liquidation de régime matrimonial. Liquidation de régime matrimonial, là encore, deux options. Soit il y a divorce, soit il y a décès. Et pour les partenaires pacsés, ou lorsqu'il y a une séparation de corps, là aussi, il y a une situation où on met fin à l'indivision, mm-hmm. ou tout simplement deux partenaires ou deux conjoints détenaient ensemble, par exemple, la résidence principale.
Bien sûr. Justement, si on rentre, parce que c'est un des grands cas, la succession, quelles sont les étapes, les grandes étapes ?
Il faut liquider. Donc, en liquide d'une succession, on va prendre des époux qui sont mariés. Ils sont mariés, c'est un régime de communauté, hein, comme 85% des Français. Eh bien, on va liquider le régime matrimonial. Et c'est quoi la liquidation du régime matrimonial ? Il faut définir l'ensemble des biens qui vont s'inscrire à l'actif de la succession et puis aussi qui vont être dévolus de par le régime matrimonial aux conjoints survivants. Donc c'est la moitié des biens communs, et puis c'est la reprise des biens propres qui étaient personnels. Puis là, on se retrouve à la deuxième étape, hein, donc la liquidation de la succession. Qui sont les héritiers ? Donc il faut effectivement rentrer dans le cadre de la dévolution successorale, qui peut être modifiée bien sûr par testament, mais bref, donc on a une dévolution successorale, on définit la masse des biens, et puis on les affecte aux différents héritiers légaux ou testamentaires, ab intesta, ou qui ont été couchés par testament. Puis, troisième étape, liquidation, là, on ne l'oublie jamais, hein. Liquidation fiscale. Donc, il faut payer son dû. Donc, on va regarder.
Au final, il y a toujours un petit moment.
Il y a toujours un petit peu d'impôt.
Ça gratte.
Il va y en avoir un qui va être sympa, après, on va en parler. Donc, mais là, liquidation fiscale, on paye ses droits. Donc, on définit l'assiette des biens qui sont inscrits dans l'actif de la succession de chaque héritier, les abattements. Et puis, on applique le taux progressif. Donc, lorsqu'on est des héritiers en ligne directe, hein, ça part, je rappelle, quand même, de 5%, mais on a une assiette à 20% à partir de 15 900 euros jusqu'à 552 000 euros. Puis après, ça peut monter jusqu'à 45%. 100% hein, au-delà d'un million 8 en ligne directe. Mais si on est en ligne indirecte, c'est 60%. Faut jamais l'oublier. Donc, là encore, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aménageons, réfléchissons pour essayer d'éviter d'avoir cette taxation importante.
Bon, et donc c'est là que s'appliquent les droits de partage.
Et là, les droits de partage, alors, s'applique ou s'applique pas? Donc, c'est là où on a un petit modulo.
C'est combien déjà le droit de partage?
Bah, le droit de partage, il est 2,5%.
Mais ça a pas mal fluctué.
Eh bien, ça a pas mal fluctué, effectivement, vous avez raison de me le rappeler, puisque avant 2012, il était de 1,10%. Depuis, lorsqu'on est à une séparation de corps ou une rupture de pacte, c'est 1,81 en 2021. Et c'est 1,10, on est revenu à ce qui se passait en 2012, depuis 2022. Mais pas lorsque l'on a un partage d'origine successorale, où là, on a bel et bien 2,5%. Et 2,5%, je vous rappelais que le taux moyen, et nous le rappelle le Conseil d'analyse économique, c'est 20%. Hein, donc, de ton moyen de droit de succession qui s'applique, si on rajoute 2,5, ça fait plus 12,5 d'augmentation. Et ce droit de partage, il est dû quand? Il est dû lorsqu'on il faut partager. Et là, on a une inégalité, on a une double inégalité. Si on a un seul héritier, il n'y a pas de partage, puisqu'il n'est pas en indivision avec un co-héritier putatif qui n'existe pas. Donc, mais si en revanche, on a deux héritiers, là, ils vont supporter les 2,5. Alors pourquoi dans un cas, lorsqu'il y a un héritier unique, il n'y a pas de droit de partage? Puisqu'il n'y a pas de partage. Et il n'y a pas de droit. Et pourquoi, dans un cadre où il n'y a plus de deux héritiers, on paye un droit de partage? Si une utilisation inégalitaire, hein, le mort saisit le vif, son noir le plus proche à lui succéder, là, il y en a deux, hein, nous dit l'adage médiéval qui remonte à l'origine monarchique, hein, c'est le roi est mort, vive le roi, ben, il y en a deux là, il y a deux rois, hein, donc ben, les deux rois, ils payent 2,5. Alors que normalement, s'il y en a un seul, ils ne payent pas. Ça, c'est une première. Et puis l'autre point, c'est que si jamais on aménage le régime matrimonial pour octroyer au conjoint survivant un droit de préciput, un droit de prélèvement avant partage. Il n'y a pas de droit de partage puisque, effectivement, il prélève un actif de par le contrat de mariage avant tout partage, avant que ça s'inscrive dans l'actif de la succession.
Donc ça veut dire qu'on peut fiscale. Travailler...
On peut travailler. Juste une chose, hein, quand même. L'administration fiscale n'est pas tellement d'accord avec le fait que lorsqu'il y a un préciput, on ne paye pas les 2,5. Hein, donc, alors il y a deux jugements, hein, deux tribunaux qui nous ont dit de Lille en 2022, hein, donc récent, là, Lille et New York, ils n'ont pas de droit de partage de 2,5. Puis il y en a un de Rennes qui nous a dit quelques années en 2021.
Bon, donc il va dernière, falloir aller en cassation.
Donc là, il va falloir se battre, etc., pour dire au fisc, s'il vous plaît, un, éviter de retaxer une nouvelle fois les pauvres survivants, parce que c'est ce dont il s'agit, d'une part. Et puis d'autre part, demandons à ce moment-là au législateur, il y a peut-être une loi de finances rectificative qui va exister, eh bien, on est en forte inflation, on veut défendre le pouvoir d'achat, on en parle tout le temps, eh bien là, ôtons ce droit de partage de 2,5, revenons même pas à 1,10. Moi, je milite pour une suppression du droit de partage.
Eh bien, c'est posé sur la table et on verra ce qu'en dit l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Benoît Lombard, le patron du groupe La Place, qui nous rend visite régulièrement. À très bientôt. Le marché parisien, lui, bah, il fait un peu grise mine. Hein. On avait ouvert plutôt dans une tendance timidement positive et puis là, patatras, on a renversé la vapeur, on est passé sous les 5009 et on perd quasiment 1%.
Votre rendez-vous avec Mileis Banque Privée. Une autre expérience de la banque privée.
Le marché parisien, donc, qui est en difficulté, hein, on perd quasiment 1%, 5897 points pour l'indice CAC, et on baisse partout en Europe, même si on baisse moins fort du côté de l'Eurostock 50, moins 0,58. Les principales hausses, quand on regarde le SRD et le CAC, on a de l'Orpea, du Rémy Cointreau, du Valneva, et puis des baisses sur 10 heures, c'est l'introduction du jour, et ça se passe mal, entre guillemets, puisque le titre perd déjà 20%. JC Deco et Forestia sont également en baisse assez nette. L'eurodoll est à 1,0329.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille à présent Barbara Thomas-David, notaire. Bonjour Barbara.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous et on fait rimer entrepreneur avec couple et on va démontrer qu'il y a quelques précautions à prendre, c'est bien ça?
C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, c'est vrai qu'il y a deux moments clés où il faut se poser des questions. Le premier moment, c'est le moment où vous vous mariez. Et l'autre moment, c'est le moment où vous allez entrer au capital d'une entreprise ou créer votre entreprise. Dans ces deux cas, il faut avoir un réflexe. Le premier, c'est au moment où vous vous mariez.
Bon. Là, il faut avoir de bons réflexes, donc c'est ça?
Exactement. Donc, vous savez qu'en droit français, si vous ne faites rien au moment de votre mariage, vous êtes de facto soumis à un régime qui s'appelle la communauté de biens réduite aux acquis. C'est un régime où tout ce que vous allez acheter, acquérir après votre mariage est commun. Et donc, si vous créez une entreprise après votre mariage, si vous rachetez des parts après votre mariage, ça va tomber dans le giron de la communauté. En fait, c'est la différence entre ce qu'on appelle le titre et la finance. Le titre de chef d'entreprise, c'est vous qui allez l'avoir. Mais la finance, elle va être commune, de sorte que si jamais soit vous divorcez, soit il y a un décès prématuré, eh bien, vous allez avoir dans la liquidation votre entreprise. Donc, l'idée, c'est d'isoler cette entreprise de votre communauté. Et il faut passer par un contrat de mariage, de séparation de biens, qui va vous permettre, justement, de séparer votre actif professionnel de votre actif privé.
Mais on le sait, la plupart des Français sont sous ce régime-là.
Sous le régime de la séparation de biens.
Alors, non, de la communauté.
Oui, les gens.
Ça veut dire que quand on se marie, on pense pas forcément que bien peut-être sûr. Quelques années après, on montera une boîte.
Bah oui, c'est pour ça que je vous l'explique.
Donc ça veut dire que on peut changer de régime.
Alors justement, le deuxième moment où il faut avoir le réflexe, c'est le moment où on crée son entreprise, parce qu'effectivement, on peut s'être marié tranquillement sans faire de contrat. Et là, vous avez la possibilité de changer de régime matrimonial. Et le législateur, au fil de l'eau, il a simplifié les règles en matière de changement de régime matrimonial. Il faut aller voir son notaire et faire un contrat de mariage qui va s'appliquer pour l'avenir. Il n'y a pas d'effet rétroactif, mais pour l'avenir, vous allez pouvoir être en séparation de biens et gérer tranquillement votre entreprise.
Alors ça, c'est dans le cas du mariage, mais il y a d'autres formes d'union, le pax, le concubinage, etc. Les enjeux sont les mêmes ?
Alors, les enjeux ne sont pas forcément les mêmes parce que ce sont des modes de conjugalité qui sont beaucoup moins encadrés par le législateur. Ça veut dire que vous avez quand même plus de flexibilité. En matière de pax, quand vous faites un pax, c'est le contraire du mariage. Vous êtes de facto soumis à un régime séparatif. Donc, je dirais que vous êtes protégé. Mais, parfois, vous avez décidé de vous mettre en indivision, si vous voulez. Il y a des pacs où vous êtes en indivision. Donc, on se retrouve dans le même cas que celui que je vous exposais tout à l'heure, à savoir une communauté et l'entreprise dans le giron de la communauté. Donc là aussi, il faut vérifier, soit avant de se paxer, soit au moment où on crée son entreprise, si on n'est pas, si on n'est pas sous un régime de communauté. Et puis, dernière chose, les concubins, ils n'ont pas de statut particulier. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous achetez votre entreprise, vous ne pouvez pas être inquiété par votre concubin. En revanche, il y a une chose qu'il faut fuir lorsqu'on est en concubinage, c'est l'indivision. Il ne faut pas recréer conventionnellement ce que la loi
n'a pas créé.
Et voilà. Sûr, Donc, si vous achetez tout votre patrimoine en commun, si vous donnez des parts de votre entreprise à votre concubin, vous allez recréer ce que la loi n'a pas fait.
Alors là, ce premier volet, entre guillemets, il est là pour protéger l'outil de travail, c'est-à-dire que pour que la pérennité finalement de l'entreprise ne soit pas mise en péril lors d'une évolution de la vie. Mais il y a aussi le patrimoine privé du chef d'entreprise.
Bien sûr. Je dirais que c'est toujours les deux volets avec lesquels il faut que vous jongliez lorsque vous êtes chef d'entreprise. Il faut, un, se dire mon entreprise, c'est mon bébé, c'est mon outil de travail, je le protège. Et puis, je protège également ce que je construis grâce aux fruits des revenus de mon entreprise, c'est-à-dire mon patrimoine privé. Et je le protège pour moi et pour mes proches. Et donc, là, si vous voulez, lorsque vous créez une entreprise, si vous ne prenez pas de précautions particulières, eh bien, votre patrimoine privé, il va être le gage de vos créanciers.
C'est ça.
Donc là aussi.
Et du coup, entrepreneur peut rimer avec malheur si on s'y prend pas bien, c'est ça?
Si l'entreprise effectivement fait des pertes, ça peut être véritablement catastrophique parce que vous allez empiéter sur votre patrimoine privé et peut-être celui de votre conjoint. Donc là aussi, je dirais que le régime de séparation de biens, si je peux m'exprimer ainsi, il fait le job, c'est-à-dire qu'il va protéger votre entreprise pour vous et il va protéger votre patrimoine privé pour vous et votre conjoint. Et donc, effectivement, il y a des mécanismes.
Il va borner finalement les recours des créanciers, c'est ça ?
Exactement. Et il y a des mécanismes, justement, de création tout simplement d'une SCI qui va permettre de faire un écran, des mécanismes de gestion des actifs différents avec des démembrements de propriété, des participations croisées. Il y a tout un tas d'outils à mettre en place. Et je dirais que le régime de séparation de biens, encore une fois, c'est un régime de liberté. Vous pouvez vous arranger. En communauté, vous avez quand même un carcan qui vous limite.
Et là encore, vous nous disiez, attention, quand on est concubin, ne recréons pas ce que la loi n'a pas créé. C'est la même chose aussi pour la protection du patrimoine privé. Si on décide de bien borner le truc et qu'on prend son épouse en mandataire social, on remet tout en danger, c'est ça ?
Exactement.
Donc il faut là aussi être très attentif sur Il faut que le civil aille aussi avec...
Aille avec le fiscal, ouais. Exactement. Pas de solidarité par des cautions de votre conjoint qu'on vous demande. Vraiment, une vraie séparation. En fait, fuir l'indivision.
Ouais. Et puis, il y a le cas de décès qui peut aussi rentrer en ligne de compte. Comment ça se passe dans ces cas-là?
Alors là, c'est un autre volet, mais qui mérite effectivement qu'on s'y attarde un instant. En fait... Il y a deux choses auxquelles il faut faire attention. La première, c'est la protection et la pérennité de votre entreprise si jamais vous décédez. Et la deuxième, c'est la protection de vos proches. En matière de pérennité de votre entreprise, vous pouvez avoir la chance d'avoir des associés qui pilotent bien la boîte avec vous. Mais vous pouvez aussi être soit seul à bord, soit avoir des associés qui n'ont pas votre maîtrise technique.
Voilà, ou un talent particulier, pense à un chef, à un nez chez un parfumeur. Ou...
Tout à fait. Donc c'est pour ça que nous, on conseille ce qu'on appelle le mandat à effet posthume. Le mandat à effet posthume, c'est un mandat au profit d'un tiers de confiance, d'un tiers spécialisé dans un domaine particulier qui va piloter votre entreprise le temps de la gestion de la succession pour que pendant tout ce temps où on va régler la succession, eh bien, il y ait quelqu'un qui pilote l'entreprise. Ça, je dirais, c'est l'aspect pérennité de l'entreprise. Et puis, parallèlement à ça, vous avez l'aspect protection de vos proches. Il se peut que votre conjoint, justement, il ait des parts dans votre entreprise. Donc, peut-être faut-il prévoir un pacte de préférence pour que, et les statuts prévoient la possibilité pour votre conjoint d'entrer ou d'augmenter sa part dans l'entreprise. Et là, il faut bien regarder les statuts et y faire un testament avec soit un pacte de préférence qui va vous permettre, moyennant finance, de racheter les parts de votre conjoint, ou carrément un leg. Et ce leg, il va vous permettre de vous voir attribuer franc de droit, avec des droits de succession mis par rapport à vos héritiers. Vous allez permettre de récupérer l'entreprise. Donc voilà, c'est des points très importants. Et quand on est concubin ou paxé, on n'hérite pas automatiquement. Et là, il faut véritablement faire un testament. Sinon, vous allez vous retrouver dans une situation où peut-être que vous avez des parts dans l'entreprise, mais vous n'allez pas avoir les parts de votre conjoint parce qu'il n'y a pas eu la case testament et leg.
Mais ça, c'est en termes de patrimoine, entre guillemets, presque privé. C'est-à-dire la possession de l'entreprise, etc. L'entreprise elle-même, pour assurer sa pérennité, il y a aussi les questions de garantie, d'assurance homme clé, etc., qui sont importantes aussi pour permettre à l'entreprise de continuer.
Alors, vous avez tout à fait raison de le souligner. Il y a tout l'aspect assurance qu'il faut effectivement gérer en parallèle avec des compagnies d'assurance et des banques, des sociétés privées qui s'occupent, des gestions de patrimoine qui s'occupent fort bien de ça, c'est-à-dire prévoir en parallèle de l'aspect juridique et fiscal que nous réglons, un aspect assurance homme-clé pour justement faire face.
Merci beaucoup Barbara Thomas-David, donc notaire qui nous accompagne régulièrement pour traiter de ces questions patrimoniales. À très bientôt.
À très bientôt.
Le marché parisien en forte baisse, on va voir ce qu'en dit dans un instant Sarah Thirion. Et puis n'oubliez pas non plus les podcasts qui vous attendent sur le site de BFM Business et qui vous permettent de nous retrouver à tout moment pour réécouter tel ou tel expert passé dans BFM Patrimoine. À tout de suite.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.